Je suis avec Valentin Rossier, bonjour.
Bonjour.
J'ai fait tomber du lit et traversé une météo peu clémente. Et on se retrouve pour parler entre autres de la Tour Vagabonde, un projet magnifique qui permet aux gens d'aller au théâtre dans la réplique d'un théâtre élisabétain, du Globe shakespearien. Une réplique qui se trouve normalement, si je ne me trompe pas, à Fribourg et qui se trouve actuellement dans le parc Tremblay, sur la rive droite à Genève. Alors, cette naissance de ce projet qui en fait permet aux gens de découvrir le théâtre sur la rive droite, ça vous est venu comment, cette volonté de faire découvrir le théâtre dans le parc Tremblay?
Alors, le parc Tremblay, ça n'a pas été le premier choix. Mmh. Le premier était le Bois de la Bâtie. Et pour des raisons de travaux, on a été transféré au parc Tremblay. Et bien heureusement, parce qu'on s'y trouve très bien. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement peu de choses sur la rive droite. L'envie, c'est une initiative un peu personnelle qui est née il y a plus ou moins une année, un peu plus d'une année, même pas, de faire partager le théâtre de texte, le théâtre classique, entre autres, et de présenter ce genre de travaux dédiés ça au jeune public, enfin pas au jeune public, aux jeunes adultes. Donc c'est-à-dire tout le secondaire 2, ceci pour les sensibiliser à l'écriture, puisque on peut dire que le théâtre est le lien direct avec la littérature, encore.
Et puis les sensibiliser aussi à une façon d'aller au théâtre, puisque ce théâtre donc élisabétain, circulaire, avec plusieurs galeries, c'est aussi une façon spéciale d'accéder au spectacle, d'accéder aux comédiens. D'ailleurs, la mise en scène, en ce qui concerne en tout cas Vincent Bonilot pour Les Précieuses Ridicules, permet aux acteurs d'être des fois en hauteur, des fois à côté directement des spectateurs. C'est aussi peut-être une expérience nouvelle, une immersion nouvelle pour ces jeunes.
Oui et non, c'est-à-dire que effectivement l'objet est particulier, atypique, et c'est vrai que ça nous change un petit peu de ce rapport qu'on peut avoir au théâtre, c'est-à-dire bon, ben, la boîte noire, grand plateau, qui est très bien d'ailleurs et qui facilite énormément les échanges. Et les tourner. Maintenant, cet objet-là, effectivement, propose des choses un peu nouvelles, et bizarrement, c'est quelque chose d'ancien. Donc, on peut s'amuser, effectivement, avec beaucoup de points de fuite, de points de jeu qu'on ne pourrait pas faire de la même manière parce qu'il y a une proximité avec le public ces étages. Et le plateau, il y a un inconvénient, il est petit, mais c'est vrai que ça nous permet vraiment, on est vraiment au centre, on est vraiment, il n'y a plus de quatrième mur. Mais je voulais revenir aussi sur le fait que cette idée de proposer du théâtre de répertoire, c'est aussi de le proposer, non, bien entendu, le public cible, c'est les jeunes adultes, mais bien entendu, c'est aussi le grand public, et quelque chose que je suis en train d'observer et qui me fait vraiment très plaisir, c'est familial. On a les parents qui viennent avec leurs enfants.
Les grands-parents.
Ou les grands-parents, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez particulier et que je n'avais plus du tout l'habitude de voir. Peut-être à Amstramgram, oui, mais dans les théâtres d'institutions, c'est généralement plus...
tranché au niveau des générations.
Oui, c'est-à-dire qu'on... Oui, c'est un peu... on pourrait dire compartimenté, la culture compartimentée.
Alors, comme vous savez, j'ai rencontré Vincent Bonilot pour justement la question de l'éducation, et lui il disait que justement dans les autres salles ça peut être plus élitiste, Et il était vraiment sensible au fait aussi que, comme là le parc est ouvert la journée, que les gens se promènent en famille, ils s'intéressent, ils s'arrêtent devant l'affiche, ils s'arrêtent devant le théâtre. Ils voient aussi la fraîche, donc la petite yourte où on peut prendre quelques boissons. Et ils se renseignent et c'est là qu'ils décident de venir justement voir les représentations. Donc ça montre aussi qu'il y a une curiosité, qu'il y a une attente des gens qui sont en tout cas dans le quartier et qu'il y a une demande par rapport à la proposition théâtrale.
Oui, heureusement, mais je pense que les gens sont friands de beaucoup d'événements de ce type, que ce soit théâtral ou musical. Bon, il est vrai que la particularité de la Tour Vagabonde attire, hein, c'est vraiment un objet qui attire. Alors effectivement, on pourrait croire que ce qu'on y présente est secondaire. Mais j'espère que non. Mais en tout cas, je pense que c'est un tout. C'est un tout, et de proposer effectivement des pièces du répertoire accessibles au grand public et aux jeunes adultes. Je pense qu'effectivement, c'est un tout, et il y a une émulation qui j'espère, va s'opérer. Parce que, comme vous le savez, le premier spectacle de Vincent Boniaud, il a un peu souffert des intempéries, donc on a vraiment plu énormément. Mais malgré tout, les gens sont venus. Enfin, voilà, on a eu moins de gens qu'on attendait, enfin, une centaine, une petite centaine. Mais déjà, j'en profite pour les remercier, parce que c'est pas évident de venir comme ça sous la pluie, parce que c'est pas un
Et les
théâtre
bourrasques.
chauffe. Et les bourrasques, parce que c'est pas chauffé, bien entendu.
Il y a quelques couvertures qui sont mises à disposition quand même.
Voilà. Et bon, maintenant, je pense que ça concerne beaucoup moins de public, enfin, dans l'avenir. On souffrira plutôt de la chaleur maintenant, enfin, j'espère, dans quelques semaines. Mais enfin, voilà, c'est assez étonnant de créer un événement. Parce qu'on ne connaît rien, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de théâtre. Donc de tout recommencer, de tout commencer plutôt. Bien entendu, avec toutes les demandes d'autorisation, de chercher de l'argent, les recherches de fonds, enfin voilà. Et l'eau, mettre de l'eau, enfin voilà, tout ça a été. C'est pour ça que j'aime à dire que ce n'est pas une scène supplémentaire, c'est un événement qui se crée. Alors effectivement, ce n'est pas du théâtre, enfin, c'est un théâtre aussi, du l'affiche aussi, qui est assez percutante, avec José Lillo. C'est une manière de démontrer la férocité du théâtre classique. On a toujours tendance à considérer le théâtre classique, disons, scolaire, mièvre. Et là, le parti pris aussi de cette tour Vagabonde Festival, c'est de donner un petit coup de rendre ces classiques un peu plus, dans une lecture un peu plus pop, rock, enfin, d'être un peu plus insolent, tout en étant respectueux avec le texte, mais insolent dans les propos.
Mais d'ailleurs, les propos sont totalement modernes, contemporains. Les préoccupations restent totalement en écho avec ce qu'on traverse actuellement, que ce soit les précieuses véhicules, que ce soit l'île aux esclaves. Dans l'île aux esclaves, il y a une sorte d'inversion de rôle, mais la servitude n'est pas abolie. Et ça reste très contemporain aussi. Il y a une servitude peut-être différente aujourd'hui. Les gens sont serviles déjà à leur téléphone portable ou à tout ce qui est communication en réseau. Donc la servitude reste totalement contemporaine.
Oui, non, je ne sais pas comment vous dire, on ne peut pas faire je pense, c'est un peu facile de faire des comparaisons si directes. Non, je pense que ce qui a été écrit dans une époque, mais les propos abordés sont généralement intemporels, de par leur importance. Donc, c'est-à-dire que la différence de classe sociale, on pourrait dire, pour l'île des esclaves, elle paraît très fortement. Elle est même. Elle annonce quand même la Révolution française, mais bien avant, hein, 80 ans avant. Donc, c'est pas non plus politique, c'est plutôt moralisateur. C'est-à-dire, on change les cœurs, on doit changer les cœurs et non pas forcément la politique. C'est en ça que l'écriture de Marivaux est assez intemporelle, parce qu'elle n'est pas vraiment politique, mais elle est plus de l'ordre, moi je dirais, psychologique et aussi
sociologique.
Et sociologique, bien entendu, oui. Anthropologique. Enfin, mais vraiment, enfin, il aborde ces thématiques-là, et c'est vrai que même les rapports entre femmes et hommes sont alors absolument, on pourrait dire, d'aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de en tout cas dans l'écriture de Marivaux, ce qu'on pourrait bien entendu voir chez Molière, mais chez Marivaux, non, il y a une forme d'égalité comme ça, de pensée, de pensée, de mouvement, c'est... Et puis bon, ben Marivaux parle vraiment des sentiments humains, hein. C'est un expert des sentiments amoureux, c'est délicieux, mais c'est délicieusement cruel, on pourrait dire, Marivaux.
Et si je ne me trompe pas, c'est le deuxième Marivaux de votre carrière ?
De ma longue carrière. Écoutez, oui, la première c'était La Seconde Surprise de l'Amour. Et voilà, oui, 3-4 ans, je crois, plus tard, oui, L'île des esclaves, qui est une pièce assez particulière chez Marivaux, parce que c'est, on est plus dans l'expérience. Alors après, c'est vrai, c'est, nous, on essaie de transposer, de réfléchir par rapport à ça. L'île des esclaves, qu'est-ce que c'est une île ? Pourquoi a-t-il choisi une île ? C'est là où on s'échoue. C'est le peut-être du renouveau, et donc il y a un parallèle avec, tout de suite j'ai pensé à Lampedusa, enfin voilà, quand est-ce qu'on débarque, qu'est-ce qui s'y passe, donc ce Marivaux là, enfin on le teste comme une expérience humaine, d'améliorer les conditions humaines, voilà. Donc on est peut-être plus proche de la psychothérapie que de la théâtralité qu'on a l'habitude de voir avec Marivaux.
Et en parallèle avec ce qui se passe dans Lampedusa ou Samos ou toutes les îles même internes, hein, on pense à l'ancien aéroport de Tempelhof où tous les migrants sont massés actuellement. Donc c'est une île interne au sein d'un pays.
Écoutez, il faut faire très attention, c'est un parallèle, on va dire quoi, intellectuel, philosophique. Maintenant, on ne peut pas totalement tordre l'écriture de Marivaux, mais c'est vrai que faire penser, se dire que tiens, qu'est-ce que... Parce que la thématique de l'île des esclaves, c'est de changer les rôles. Donc, c'est-à-dire que les esclaves deviennent... enfin, punissent les maîtres. Mais avec le temps, ils ne se vengent plus d'eux, ils ne les tuent plus, comme la Révolution française. Ils décident de les changer, changer leur comportement. Donc, ils font une expérience, c'est-à-dire ils échangent les rôles. Donc les maîtres deviennent les valets deviennent les maîtres. C'est, bien entendu, après, c'est
une utopie.
C'est surtout, c'est un prétexte aussi pour voir, c'est un prétexte à la comédie, à la truculence théâtrale. Mais en même temps, ça a des résonances très particulières aussi à notre époque.
Là, il s'agit d'une création. Alors que pour Vincent Bonillo ou pour votre collègue... Guerrero, ce sont des reprises, avec, je crois, des distributions différentes, il me semble.
Oui.
Vous êtes lancé dans la création, par contre, pour faire La Tour Vagabonde.
Écoutez, oui, le souci, comme vous savez,
budgétaire.
Budgétaire, oui, c'est-à-dire qu'on doit chercher de l'argent, qu'on compte effectivement sur l'ARCET.
Et on compte sur un bon résultat le 19 mai pour les élections, les votations.
Voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait... Oui, non, mais je pense... je suis confiant quant à l'intelligence
de nos concitoyens.
De nos concitoyens. Et puis, non, mais surtout de la culture à Genève, enfin, le conseil administratif et tout. Je pense que c'est un objet qui enfin, un événement qui a, mérite d'être un peu aidé. Mais encore une fois, nous, on n'a pas besoin vraiment d'être à l'année, hein, c'est un événement, encore une fois. Mais bon, ça, c'est pas très important, c'est notre problème. Du coup,
c'est une création.
On était parti sur la création, d'accord, la création. Donc oui, bon, bah, il faut... quand vous faites une création, bah, c'est un coût. Hein. Nous, on peut... Enfin, ce qu'on propose à la Tour Vagabonde, c'est de prendre un spectacle donc, sur 2 semaines et demie, et de l'acheter. Alors, c'est vrai que c'est pas le même prix qu'une création. Alors après, on peut faire une coproduction, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, c'est la première édition. Va-t-il y en avoir une deuxième ? Moi-même, je ne sais pas. Donc, là, en l'occurrence, l'argent pour créer... vient effectivement de la ville, donc la mesure d'accompagnement suite au théâtre de Langerie. J'avais une somme qui pouvait me permettre, en allant chercher encore ailleurs, de faire une création avec 5 comédiens. Quoi. Et le reste, effectivement, c'est des achats.
Et on peut parler des comédiens, justement ?
Mais quand vous voulez.
Je vous écoute.
Les comédiens pour toutes les pièces.
Oui.
Alors, les précieuses et ridicules, je crois que...
je les ai vues.
Vous les avez vues, vous les avez citées. L'île des esclaves, ça concerne... Alors, il y a Marie Druc, Dominique Gubzer, Juan Antonio Crespigo, et Lionel Brady, et moi-même.
Voilà. Vous êtes en pleine répétition actuellement ?
Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est dans 4 jours, je crois.
Le 15 ?
15 mai.
Voilà.
Oui. Il fait beau, je crois.
Je ne peux pas vous dire. La météo est peu fiable actuellement, mais je vous le souhaite. Et la Tour Vagabonde, comme vous le mentionnez, c'était une première édition. Ça aussi, ça répond à laps de temps dans le calendrier des théâtres où il y a moins de spectacles, c'est la fin de saison. Donc, c'est aussi très judicieux de placer à ce moment-là la Tour Vagabonde.
Oui, fin de saison. Après, il y a effectivement le théâtre de Langerie. Donc, ça se situe entre ces deux. Enfin, dans cette période-là. Après, c'est pas la période forcément idéale pour s'adresser aux classes. Hein. On est bien d'accord. Mais.
Oui, ils peuvent encore aller au théâtre avant les examens.
Oui, c'est aussi une question du temps. Donc il faut quand même qu'il fasse un peu beau pour que les gens soient attirés par l'objet, par la proposition de faire du théâtre, non pas en plein air, mais quand même quasi en plein air. Voilà, il a fallu réfléchir, trouver plus ou moins une niche, quel moment on pourrait faire de moi, enfin voilà.
Tout en considérant qu'il y a un travail en amont avec les professeurs, les enseignants.
Oui, disons de travailler, on travaille avec l'École et Culture, entre autres avec Madame Della Vecchia. Donc tout ceci est un travail en amont. Mais il est vrai que ce serait préférable de faire ce festival si on veut vraiment toucher les classes. Enfin les secondaires 2, ce serait mieux en septembre-octobre, on est bien d'accord. Mais après, septembre-octobre, il y a beaucoup de propositions théâtrales, et en même temps, il y a le temps est beaucoup moins sûr, les températures, et puis voilà, donc après, il y a aussi le grand public, l'intérêt, et j'aimais bien ce côté de proposer ça cette expérience-là durant le printemps, parce que c'est le printemps est synonyme de jeunesse, donc voilà, c'est comme on s'adresse quand même à c'est notre public cible. Mais majoritairement, bien entendu, c'est le grand public qui répond à l'invitation. On aura, enfin, on a à peu près, je ne sais pas, on arrive à 1000 élèves.
Le nombre de places dans le théâtre du Globe ?
Mais on ne sait pas encore réellement, parce que c'est des bancs, donc il y a des chaises et des bancs. Mais 250. Ouais, 250. Ouais.
Alors, pour revenir à votre carrière, longue, comme vous disiez en début d'interview, il y a quelqu'un qui vous a offert un rôle-titre au théâtre Amstramgram, Poil de Carotte, c'est Dominique Caton. Il nous a quittés fin 2018. Vous pouvez nous dire ce que Dominique Caton vous a apporté dans votre parcours ?
Ah ben ça c'est... Je vous félicite d'en parler, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les gens très vite. Et Dominique Caton, début de carrière, oui, quand j'étais encore à l'école, m'avait proposé de, et engagé pour l'accompagner. Dans cette création de Poil de Carotte. Bon, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, je ne sais plus.
Vous étiez roux à l'époque ?
Non, non, j'étais pas roux.
Non, c'est une plaisanterie, Poil de Carotte.
Non, j'étais pas roux, mais je m'étais teint les cheveux. Non, alors écoutez, Dominique Caton, oui, ben c'est, son travail était vraiment admirable. Hein. Il a quand même créé ce théâtre.
Amstramgram,
oui, pendant des années, c'est des spectacles très poétiques, magiques. Il y avait vraiment, non, c'est une grande entreprise. Et c'est vrai que bon, moi j'ai joué plusieurs fois Amstramgram en début de carrière, entre autres.
Jules Verne.
Oui, il y avait ça. Puis
Voyage en 80 jours.
Oui. Et puis avec c'est là où j'ai rencontré Laetitia Quintavalle, avec un spectacle qui donc c'était une compagnie italienne à Parme. Mm-hmm. Et puis on a créé ah oui voilà le Papa Perduto, Parent Perdu, et c'était par rapport au petit Pousset. On avait fait justement un spectacle là-bas, Amstramgram, une création. Après, on a été tourné en Italie. C'était un théâtre un peu interactif. C'est-à-dire que je prenais les enfants et je les abandonnais. Je leur faisais peur. Enfin, voilà, tout ça, l'ogre, l'ogresse. Et c'était vraiment un très beau... J'aime bien ce côté expérimental avec... du titre expérience avec le théâtre d'enfant. Et puis après, il y a le théâtre qui est plus peut-être spectaculaire, quoi. C'est vrai que pendant des années, les dernières années, je n'ai plus du tout travaillé à Amstramgram, mais j'ai toujours eu un contact avec Dominique. Nous avions... des conversations virulentes, mais très respectueuses. Enfin, c'est voilà quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime pour la personne, et puis aussi sa générosité. Mmh. C'est quand même quelqu'un de très généreux.
Donc un jalon très important dans votre carrière, dans votre parcours.
Oui. Mais comme je vous l'ai dit, c'était vraiment au début. C'était au sortir de l'école. Mmh. C'était vraiment. C'est vrai que j'ai pas rencontré énormément de metteurs en scène finalement. Il y a eu aussi Claude Strass, voilà. Mmh. Et après, c'est. Très vite, j'ai fait de la mise en scène.
Et entre la mise en scène et le rôle de comédien, vous avez une préférence ou vous êtes bien dans les deux situations ?
Non, je me sens mal dans les deux. Mais c'est...
Il y a du Gainsbourg en vous, alors.
Voilà, oui, je pense... Non, mais je ne sais pas. Non, mais c'est. Je me souviens à l'époque, bon, il y avait 20 ans, c'était vraiment remis en cause énormément le fait de jouer, de faire la mise en scène. Maintenant, ça devient assez commun, hein, je veux dire, tout le monde le fait. Je ne veux pas dire que je suis un précurseur de quelque chose, mais on s'est rendu compte aussi qu'au point de vue économique, c'est quand même pas mal que le metteur en scène puisse être capable de jouer. Voilà. Et du coup, non, mais j'ai jamais voulu effectivement choisir. Pour moi, c'est un tout. Alors après, wow, j'ai cette, je ne sais pas, facilité, mais j'aime bien être. Voilà, j'ai toujours fait ça, de l'intérieur, faire des mises en scène. Je n'ai jamais fait une mise en scène en restant en extérieur, jamais. J'ai toujours participé. J'ai toujours participé à la fête.
Accompagner les comédiens, puisque
Accompagner
les
de, oui, puis de
diriger.
jouer, puis de jouer. Oui, voilà, bah, très vite, oui, on est assez. Enfin, on s'accompagne quand même, et croyez-moi, je pense qu'il. Il ne se gêne pas de me dire ce qu'il pense, enfin voilà, mais on s'amuse beaucoup, c'est le but. On s'amuse, et puis bon, ben, des fois c'est difficile, on doit travailler, on doit trouver des solutions. Souvent, la crédibilité, c'est ça au théâtre, c'est pas le réalisme, c'est plus pour le cinéma, mais la crédibilité au théâtre. Et ensuite, trouver une distance, une distanciation de cette crédibilité. C'est un travail, finalement, pour s'approcher le plus possible de l'esprit d'auteur.
D'une authenticité.
Et l'authenticité aussi, bien sûr, mais bon, alors c'est vrai que c'est des préoccupations qui sont de moins en moins contemporaines, puisque on est plus dans la sensation, l'image, le ressenti et l'extrême aussi, hein. On pousse souvent les choses à l'extrême. Là, on reste dans le théâtre. Donc effectivement, des comédiens qui interprètent quelque chose. Mais je prends toujours souvent l'exemple de Glenn Gould, par exemple. Est-ce que c'est un interprète ou un créateur? Peut-être que c'est les deux, je sais pas.
Valentin, aussi, je vous ai beaucoup fait parler. Quelques mots encore sur les projets.
Sur les projets.
Après la tour Vagabonde.
Ah bah écoutez, y en a pas vraiment.
Ah bon? Mais
Mais non,
si.
non, non, il n'y en a pas pour l'instant. Non, non, j'ai énormément travaillé pour ça.
Vous étiez au théâtre Alchimique il n'y a pas longtemps en plus.
Théâtre chimique, oui, et puis il y a oui, une volonté de reprendre Lisbeth de Fabrice Melchior. Voilà, c'est une tournée. Voilà. Donc si des théâtres ici à Genève sont intéressés, des théâtres chauffés.
Le message passe
Ben
et est
voilà,
passé.
oui, parce qu'il y a quand même pas mal de théâtres d'institutions, mais c'est vrai que ouais, c'est un peu. Voilà, on est un peu en attente aussi de pouvoir y travailler.
Voilà, merci Valentin Rossier et bonne répétition
Merci.
cet après-midi.
Merci, c'est gentil, merci.